podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, Tommy Godette au micro de Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic The Gathering. Ce soir, il y a Jonathan qui est là. Salut Jonathan.
Bonjour Tommy.
C'est toi qui as choisi la trame sonore qu'on est en train d'écouter ce soir.
Oui, ben, je suis un fan de Shmup, fait que Gradius, un bon classique, si on est capable de le finir avec un 25 cents.
Shmup, c'est vraiment drôle. Ça, c'est comme l'abréviation de Shoot 'em Up, là, parce que c'est les jeux de vaisseau et des pipipiou, pipiou. Moi aussi, j'adore ça, les pipipiou. Tu peux me mettre en avant de ça. Il faut qu'il y ait des power-ups, par contre. Il faut qu'il y ait une progression. Là. Je vais être capable de pitcher des grosses balles, là, parce qu'à un moment donné, là, c'est juste celui là que tu virais noir puis blanc, puis tu avais tout le temps les mêmes balles d'un bout à l'autre. J'ai trouvé ça décevant.
Ah, oh, il est tellement bon, celui-là.
Il y a un gars, c'est un classique. Je le sais, mais il manquait quelque chose. C'est pas grave, anyway, c'est pas trop de ça qu'on va parler, parce qu'on a le Sphinx de Terrain Basique. Salut Jason.
Hey, bonjour. Gros programme ce soir, gros programme.
Ben oui, tu t'es mis dans un décor de Power Plant.
Power Plant, vous savez, on retourne sur Dominaria à la fin de l'été, puis on sait que 2023 va être l'année des Phyrexiens. Donc, je commence officiellement ce soir ma longue série sur... l'origine de la Phyrexie et la saga d'Urza. Et donc ce soir spécifiquement, on va se taper la guerre entre Mishra et Urza.
Colin, hein, on beaucoup commence de au début puis on explose ça jusqu'au bout. Première étape, il va y avoir de la chicane entre frères. Hein?
Des grosses chicanes.
Je vais parler un petit peu de mon deck de Sarko, parce que hein, c'est important, les choses avancent. Puis écoutez, c'est ça la carte. Ça s'appelle Unpredictable Cyclone. C'est une carte qui fait que quand que l'enchantement qui coûte 3 colorless, 2 rouges est en jeu, quand tu cycles une carte, à la place de piger une autre carte, ce que tu fais, c'est que tu flippes des cartes du top de ton library jusqu'à temps que tu arrives à une carte qui est du même card type. Puis après ça, tu peux la caster sans payer le mana cost. Puis après ça, tu mets les autres cartes en dessous. Et celle en plus, c'est un cycle de 2 colorless. C'est un enchantement, ça. Fait que des fois, qu'un coup que j'en ai un en jeu de ça, mais là, je peux le cycler pour 2 colorless. Puis si je tombe sur le seul autre enchantement que j'ai de mon deck, c'est la tempête de requins ici qui fait...
Sharknado.
Le Shark Typhoon qui fait apparaître des requins qui volent. Sinon, ben, je peux l'utiliser en instant aussi, bien évidemment. Mais l'affaire qui est le fun, c'est que si, mettons, je cycle, ben, ou je la mets en jeu, hein, ça, c'est une affaire que j'aime bien. Quand tu peux en taper des lands, ben, les lands qui arrivent en jeu tapés puis qui te donnent 2 mana, c'est quand même pas mal cool que tu peux les untapper en mettant ta petite feuille en jeu, que tu peux aussi cycler. La patente qui est le fun, c'est que ça accélère quand même assez vite quand tu as le Boon of the Wish Giver qui coûte 4 colorless, 2 bleus, qui fait que tu piges 4 cartes, mais qui est aussi cycling pour un colorless. Fait que des fois, j'ai mon autre enchantement de tantôt en jeu et je me suis arrangé pour avoir juste 2 sorceries différentes dans mon jeu, c'est-à-dire 4 fois le Boon qui te fait piger 4 cartes et 4 fois le Inspired Ultimatum qui coûte 2 blancs, 2 bleus et 3 rouges. Qui fait que tu peux... Puis il y a un joueur qui gagne 5 d'énergie, tu fais 5 de dommages où tu veux, puis tu piges 5 cartes. Fait que là, ça fait qu'à toutes les fois que je paye un colorless pour cycler cette affaire-là, soit que je pige 5 cartes, puis je fais 5 de dommages, puis que je gagne 5 vies, ou soit que je pige 4 cartes. Fait que ça va quand même assez vite quand que l'autre est en jeu. C'est pour ça aussi que j'ai opté pour des Trills of Possibility. C'est important que j'en aie 4 dans mon deck parce que c'est un instant et j'ai aussi seulement comme instant celui-là ici, les Choking Tethers, que tu peux payer un bleu, un colorless pour le cycler et taper une créature. Fait que là, c'est cumulatif. Fait que, mettons que je fais mon bleu, mon colorless, là, je peux taper un monstre, puis à la place de piger, je drill jusqu'à temps que je pogne un autre instant qui fait quelque chose. Fait que souvent, c'est un Trills of Possibility. Puis le Trills of Possibility, il est important parce que ça arrive des fois que j'ai Progenitus dans ma main, mais il faut pas qu'il soit dans ma main. Il faut qu'il soit dans mon library le plus possible parce que ça arrive des fois que je peux cycler une mouche de 2 colorless ou cycler mon Godzilla ici de un colorless, un noir, un rouge, pardon. Et là, je flippe des cartes du top de mon library jusqu'à temps que je trouve une créature. Et ça arrive souvent que c'est Progenitus qui est la créature. Fait que là, ben, je peux le mettre en jeu pour avoir, mettons, payé deux colorless. Fait que c'est un petit peu l'angle avec lequel je suis en train d'aller avec ce deck de Cycle-là. Finalement, je vais en avoir deux. J'ai essayé la semaine passée, puis j'aimais beaucoup ça, flipper des tops des cartes du top de mon library avec le Unpredictable Cyclone. Vraiment, c'est un plaisir. C'est, en fait, le vendredi passé, ça m'a fait chier un petit peu là, parce que Jonathan, il s'est fait un deck avec juste du removal de poche, là. Fait que là, il a fait un damnation, puis là, ça a pété. Dans un monde où le bien triomphe toujours du mal, je pense que j'aurais été capable d'attaquer avec dans mes erreurs les plus pires. Mais tout ça pour dire que les choses s'en viennent, je suis content. J'ai recommencé à sortir puis à gosser dans mes cartes. J'ai comme 4, 5, 6 decks en stand-by, là. Un deck noir-blanc aussi qui annule les effets de Comes into Play des créatures. Fait que là, j'ai pu ressortir mes 4 Eater of Days. C'est comme 4 colorless, c'est des 9-8 Flying Trample pour 4 colorless, mais quand il arrive en jeu, tu skips tes deux prochains tours. Mais c'est parce que là, il n'y a plus d'effet de When It Comes into Play. Fait que là, je vais avoir mon. Fait que là, ben, c'est ça. J'ai des Hunted machin. Ça, c'est une autre discussion, Jason. C'est une autre discussion. Je pense que ça va nous amener vers la carte de la semaine.
J'ai intégré la carte de la semaine dans mon histoire. Donc,
j'aime ça. Si, ça veut dire que là, on s'en va se poser. Dans ce que je préfère, c'est du gros lore gras qui oppose les deux frères héréditairement qui se sont chicanés. Hein? C'est Rupert puis Blasphemous, je pense. Non, c'est pas vrai. C'est Ishra puis Urza, c'est parce que c'est des noms hindous, parce qu'à l'époque, Richard Garfield, il trippait là-dessus.
C'est ça. À quelle année t'as commencé, Jonathan?
Unlimited.
Ouh! Fait que tu vas être gâté ce soir.
Ah, si on se rend à Crovax.
Crovax, mais c'est pas ce soir qu'on sera à Crovax. Ah,
ok.
C'est juste la guerre des deux frères. Là. Oh, calme-toi, le Crovax, ça va être au mois d'août. Là.
Ok. Ben, t'as mon intention jusqu'au mois d'août.
Non, ce soir, on est en 94. Hein, tu parlais d'Unlimited, justement.
Ouais.
Et je veux juste faire comme un petit préambule avant de me lancer dans l'histoire en tant que telle. C'est important pour comprendre d'où vient l'histoire entre Urza et Mishra. Il faut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait une histoire sur un jeu qui, à la base, Richard Garfield ne s'intéressait pas vraiment aux histoires qui étaient sur les cartes. Lui, ce qui tripait, c'était le jeu de la mathématique, là, l'interaction entre les cartes. C'est seulement pour des raisons de marketing qu'ils ont mis des images de fantasy. Ça a eu un gros succès. Hein. On se rappelle, quand Alpha est sorti en 93, vendu en un mois. Après ça, ils ont imprimé Beta, vendu en deux semaines. Là, ils se sont dit « Oh, ça pogne notre affaire. » Fait qu'il faut créer des extensions. Fait que là, Richard Garfield, à l'époque, avait demandé à ses playtesters, pouvez-vous faire rapidement, très très rapidement, parce que ça se vend comme des petits pains chauds Magic, faut développer des extensions qu'on va vendre avec le jeu de base de Magic the Gathering. Fait qu'il y avait deux gangs, j'ai la photo ici, là, ça c'est Wizard of the Coast en 93. Richard Garfield est ici avec la chemise blanche. Pour ceux qui écoutent le show sur YouTube, ici on a Peter Atkinson qui était le président de Wizard of the Coast qui avait le cash pour publier ça. Et tous ceux qui sont autour sont les playtesters de Magic. T'as sa gang avec qui Richard Garfield jouait au bridge. Eux vont faire ce qui va devenir en fait Mirage. Et la gang autour de Scaff Elias, et qui sont de l'Université de Pennsylvanie, qui s'appelle les Eastern Playtesters.
Ça, c'est les mathématiciens, ça.
Oui. Eux, c'est des joueurs de Wargame. Tu sais, pensez Warhammer et ces affaires-là.
OK.
Fait que ils se sont dit, ben écoute, on va faire des storylines. Ils planchaient déjà sur ce qui allait devenir Ice Age parce qu'ils pensaient à l'époque qu'ils allaient faire comme une deuxième édition de Magic, qui avait pas le même dos. Comme dans le fond, un genre de comme Magic 2.
Ouais,
ce qui allait éventuellement être connu sous le nom de Ice Age. Ils planchaient déjà là-dessus depuis 93. Mais là, comme complément. Richard Garfield dit non, on change le plan, ça va être. Toutes les cartes vont avoir le même dos, mais là, il faut faire comme des extensions. Fait que pour y aller vraiment facilement, la première chose qu'ils se sont dit, c'est On va faire un set qui basé un set de 100 cartes basé sur les artefacts. Ça va être vraiment simple, c'est que chaque carte du set va avoir le mot artefact dans le texte, à part les lands, et qui vont produire du mana colorless. Mais tu sais, ça va tout être montré dans le fond comment chaque couleur interagit avec les artefacts, le rouge, okay, les classes.
Ok, ok.
C'est
déjà de l'éditorial assez pesant pour si jeune dans le jeu, pareil.
Oui, quand même. C'était vraiment simple. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a surtout des artefacts. C'est un set basé sur des artefacts. Puis vu que c'était un petit peu plus tripeux d'histoire, là, de storytelling que Richard Garfield, eux se sont dit, bon, non seulement on va faire un set basé sur les artefacts, mais on va essayer d'y donner une identité propre.
Donc,
à ce moment-là, le jeu de base de Magic the Gathering, il n'y avait pas vraiment... Il empruntait à gauche et à droite la mythologie grecque, les histoires des chevaliers. Richard Garfield lui-même, la première extension, il avait fait Arabian Nights, qui était entièrement basé sur les contes des mille et une nuits. C'est pas quelque chose qui est propre à Magic. Eux, ils se sont dit, non, ce que ça nous prend, c'est le propre IP, là, le propre thème qui va devenir... Après ça, si Magic a du succès, on va tout le temps faire des sets qui vont se passer un peu dans les relents de cette histoire-là. Là. Fait que c'est comme ça qu'ils ont starté cette idée-là. Puis ce qu'a fait l'AS, il y a eu, je trouve, une idée géniale, c'est qu'il s'est dit... Parce que là, Richard Garfield, il disait, c'est impossible de raconter une histoire avec des cartes. Parce que nos cartes sont vendues en booster mélangé. Fait que tu sais, comme tu peux pas véhiculer une histoire comme un comic book de cette façon-là.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai, mais bon, à l'époque, ils ont fait le débat. Puis ce qu'a fait l'AS, il a répondu à cet argument-là en disant « Raconter une histoire avec des paquets de cartes à collectionner mélangées, c'est comme faire de l'archéologie. »
Non?
Pense là, que tu fais de l'archéologie, tu ramasses à gauche et à droite des pièces d'un casse-tête, qu'une fois que tu as reconstitué ton casse-tête, là, tu sais que tu as reconstruit ton pot, ben tu as le pot complet puis tu es capable de raconter l'histoire. Il s'est dit « Un booster de Magic, c'est le même concept. » Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan?
J'aime ça. Je suis pas un fan d'archéologie, mais oui, ça me fait un peu penser en jeu vidéo quand il disait que c'était impossible de raconter une histoire en open world, puis que les open world avaient pas d'avenir. Puis, je crois que...
C'est à peu près... C'est une bonne analogie, j'aime bien.
Ah, il est fascinant, hein? On a une bonne recrue, Jonathan.
Oui,
si, s'il y a quelqu'un chez vous, demandez qu'il te donne une tape dans le dos, là, de ma part.
Fait que le set d'Antiquities, c'est l'histoire, c'est en même temps que c'est des cartes que tu rajoutes à ton deck faites avec des cartes du set de base. Fait que dans le fond, c'est que tu as fait des fouilles archéologiques puis tu as trouvé des traces du passé de Dominaria. Hey. C'est ça l'histoire de Antiquities. Et il s'est basé sur le fait qu'il y avait trois artefacts dans le set de base qui avaient des noms propres. Il y avait les lunettes d'Urza et l'encre de Mishra. Urza, c'est un endroit... Parce que Richard Garfield, avant de faire Magic the Gathering, il est allé faire du backpacking en Inde. Il a vraiment trippé là-dessus. Urza, c'est une région en Inde. Mishra, c'est un fameux joueur de lutte. Pas de lutte, de sitar. Excusez-moi, je me suis trompé d'instrument à petit siècle. Mishra, qui est un... Vous tapez ça sur YouTube, là, c'est de la musique. C'est comme un des plus gros joueurs de sitar en Inde, là, qui a beaucoup influencé, notamment les Beatles, là, quand ils sont mis à triper sur l'Inde. Là.
OK.
Fait que tu sais, c'est simplement les lunettes d'Urza, ça permet de regarder la main de l'autre. L'angle de Mishra, ça fait 2 de dégâts à chaque fois qu'un land rentre en jeu. Fait que là, il est parti de ce concept-là, ce qu'a fait l'AS, puis il a dit « Urza et Mishra, c'est des frères. » Fait que dans le fond, ça, c'est des artefacts qui appartenaient à chacun de ses frères. Puis il a remarqué aussi, dans Alpha, il y avait le Clockwork Beast, qui faisait un gros contraste avec l'espèce d'image là, de chevalier puis de minotaure. C'est-à-dire qu'il y avait des robots dans Magic. Puis ça, je sais pas pour vous, là, mais ça a tout le temps un peu clashé avec le côté héroïque fantasy qu'on était habitué, n'est-ce pas? Surtout au début de Magic, à ça on est habitué, là. Mais au début de Magic, ça faisait un drôle de contraste. Fait qu'il y a parti de...
J'ai tout le temps placé ces affaires-là comme dans le folder magie, là, comme un golem.
La façon dont ils l'ont expliqué pour l'intégrer dans l'histoire, ils ont dit dans le fond, Mishra et Urza ont existé il y a 4000 ans et ils avaient découvert les ruines d'une civilisation encore plus ancienne qui s'appelait les Tran. Et qui ont fait des robots, de la robotique alimentée par la mana, hein, dans le fond, la source de magie à Magic. Fait que c'est comme ça que Antiquities a été lancé en mars 94. C'est vraiment deep. Dans le magazine Duelist, il y a un article Element of War qui explique qu'à mesure qu'il faisait le set, il se faisait une game on the side, un war game.
OK.
Puis, à mesure qu'il faisait les cartes, il se disait où cette carte-là va fitter dans notre war game. Puis, à partir de ça, ils ont réussi à faire ce qui est dans le fond la première carte de Dominaria qui existe. On l'appelle la patate. C'est paru dans le premier magazine Duelist. Ça a l'air d'une grosse patate, là. C'est pas très avancé comme dessin.
Non.
Mais c'est probablement tous les noms propres utilisés dans le set Antiquities apparaissent là-dessus. Yotia, Argive, Terizior. Fait que Urza et Mishra sont. Ils viennent de la nation de Argive, qui est comme la nation la plus avancée sur Terizior. Puis, dans le fond, c'est les cartes blanches dans Antiquities qui faisaient référence au monde Argive. C'est des métallurgistes, puis des gens qui trippent sur le passé, des archéologues. Fait que t'avais, moi, une carte là, que je trouve vraiment le fun, c'est Argivian Archéologiste, qui est aussi la seule carte de Magic où le personnage dessus est habillé comme un hipster.
C'est vrai. Les petites lunettes et la barbe de douche.
Il me fait penser au gant jeans qui a apparu pendant quelques secondes dans Mandalorian.
Oui. C'est un summon archéologiste. Un, tu payes deux blancs pour amener un artefact de ton graveyard dans tes mains. Fasciné par les anciennes histoires de conflits, les archéologistes cherchent des restes d'un temps puissant d'autrefois. Fait que Urza et Mishra sont en fait envoyés par. C'est deux fils de nobles. C'est pas des jumeaux, by the way. Urza est né le premier jour de l'année et Mishra est né le dernier jour de l'année, qui est l'an zéro, là, avec lequel tu calcules le calendrier de Dominaria.
OK. C'est logique, ça se fait.
Oui, sont envoyés dans le désert, dans l'arrière-pays de Argive, là, proche de ce qu'on a, les montagnes de Sardia, pour aider une madame qui s'appelle Tocassia, donc la carte Grape Shot Catapult, là, qui était vraiment un artefact pitoyable, on s'en fout pas mal, mais ça disait dans le flavor text que.
For years, scholars debated whether these were Urza's or Mishra's creation. Recent research suggests they were invented by the brothers' original master, Tocassia, and that both used these devices. Fait que là, il y a un nouveau personnage, là.
Ouais, c'est Tocassia. Dans le fond, Tocassia, c'est la... Parce que là, c'est dans le fond, ils sont adolescents, les deux. Puis Tocassia, c'est comme leur master. C'est une Argivian archaeologist. Puis elle déterre les vieilles ruines Tran. Elle est à la recherche, dans le fond, les Power Stones, qui sont, dans le fond, les artefacts qui te permettent de produire du mana. Hein? Mana Vault, qu'on connaît très bien, là, que tu peux taper pour faire 3 mana colorless. Donc, c'est des exemples de Power Stones. C'est, dans le fond, les piles à batterie avec lesquelles les anciens Tran alimentait leur robot. Okay, fait qu'elle, c'est ça qu'elle cherche. Fait qu'il y a plusieurs flavor texts qui vont mentionner Tocassia dans Antiquities. Par exemple, là c'est drôle parce qu'au début, dans leur storyline, c'est juste des affaires vraiment basic qu'ils trouvent. Comme par exemple, l'onulette, qui est juste un 2-2 que s'il meurt, tu gagnes 2 de vie.
Dessin est weird.
Dessin weird. Lis-nous le flavor text, Tommy.
An early inspiration for Urza, Tocassia's onulets contained magical essences that could be cannibalized after they stopped functioning. Ben oui, c'est deux life.
Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est dans le fond, c'est des artefacts Tran avec une utilité plus ou moins définie. Là. Cependant, en fouillant dans le désert, ils vont faire aussi des vraies découvertes qui valent la peine, comme le sushi. 4 colorless, ça c'est un staple là, dans le vieux Magic. 4-4 pour 4. Son seul drawback, c'est quand il meurt et il te fait 4 mana colorless. À l'époque, n'oubliez pas, il y avait le mana burn, fait que tu veux pas qu'il meure pendant ton tour. Mais c'est le fun aussi dans des decks de sacrifice parce que ça te permet de ramper. Ça dit des copies, des reliques de l'Empire des Tran. Les sushis étaient très instables, mais ont amené des savoirs très utiles aux étudiants de Tocassia.
Tu sais, à face comme il y a l'air lettre que le Christ. Ouais. Il n'y a pas de ça, c'est pas chez nous que ça va. falloir limer ça, c'est dans là.
T'sais, il faut, il découvre des affaires. À un moment donné, Urza va découvrir l'ornithoptère en fouillant les plans de l'ornithoptère. On connaît ça, hein? 0-2 flying pour zéro. Plusieurs, ça dit dans le favorite text, là, plusieurs sages pensent que ces créatures étaient le résultat des premières inventions de Urza avec la vie mécanique. Probablement construit dans ses premiers jours comme apprenti de Tocasia. Là. Fait que ça, on voit un peu là, que les artefacts faibles dans Antiquities, c'est l'époque où les deux étaient comme genre des ados puis qui commençaient. Là, t'sais.
Okay.
Un jour, ils vont découvrir la cave de Koilos. La cave de Koilos, en continuant à creuser, ils découvrent une espèce de vieux complexe, une ancienne. Dans le fond, c'est les souterrains d'une ancienne cité Tran.
Ok, ok, ils sont en train de métro, là, c'est bon.
Oui. Puis, dans les ruines de Koilos, le nom va peut-être vous paraître familier parce que c'est le Painland blanc et noir qui te fait un dégât si tu fais du mana blanc ou noir. Là, c'est les caves de Koilos qui est apparu dans Invasion. Un jour, je vais y arriver, mais c'est un nom qui va rester tout au long de l'histoire. Fait que retenez ça, Koilos, avec un K.
Ça, c'est la Motherlode. Ils ont trouvé le trove de gros trésors. Là. OK, j'aime ça.
Ouais, c'est le plus gros dépôt là, de Tran qu'ils ont trouvé.
Puis là, dans ce temps-là, ils étaient les deux des chums, puis on s'aime Mishra. Oui, je t'aime Urza. OK, ça.
Ils trouvent une grosse Power Stone, qui est la plus grosse Power Stone qu'ils ont trouvé jusqu'à date. Mais en la manipulant puis en faisant des recherches dessus, à un moment donné, elle fend, tu sais, elle se sépare en deux. Puis les deux frères vont commencer à s'ostiner comme qui devrait étudier cette Power Stone-là.
Okay.
Puis là, en se battant, puis ça, il y a la fend en deux. Puis ça va créer le Might Stone et le Weak Stone, qui sont deux artefacts dans Antiquities. Le Might Stone est chargé de valeurs positives, fait que toutes les créatures qui attaquent vont être plus 1, plus 0. Tandis que le Weak Stone est chargé négativement, c'est que toutes les créatures qui attaquent perdent moins 1, moins 0. Puis les créatures qui ont un power de 1 ou moins, bon, font 0 dégâts, mais ça, c'est parce qu'ils voulaient, tu sais, c'est wordé différemment à l'époque, là. Mais dans le fond, c'est moins 1, moins 0 pour le Weak Stone et plus 1, plus 0 sur le Might Stone. Donc, tu sais, tu vois, sur le Might Stone, si tu peux. Lis-nous le flavor text du Weak Stone, Tommy.
During the brothers' childhood, Tocasia took them to explore the sacred cave of Koilos. There, in the Hall of Tagsin, Mishra discovered the mysterious Weak Stone.
Fais-nous le Might Stone maintenant.
While exploring the sacred cave of Koilos with his brother Mishra and their master Tocasia, Urza fell behind in the Hall of Tagsin, where he discovered the remarkable Might Stone with the Rangan les plus pires.
Fait que ça va être vraiment l'origine là, de la chicane entre les deux. C'est qu'ils veulent réunir le morceau, fait qu'ils ont besoin d'un morceau de l'autre.
Mm.
Puis la chicane va vraiment pogner intense. Une grosse bataille dans le campement, puis là, ils vont se mettre à summoner des affaires, puis tout. Puis lorsque ça va arriver dans leur première bataille, là, T'sais, ils vont commencer à se péter sa gueule pis ça, pis à utiliser le Might Stone, Weak Stone l'un contre l'autre. Et ça va virer en bataille générale dans le campement. Et pendant cet affrontement-là, Tocasia va se faire tuer par accident. Et Urza va réussir à faire convaincre à tout le monde que dans le fond, c'est de la faute à Mishra. Fait que Mishra va se sauver dans le désert avec la Weak Stone. Fait que ça va être la séparation entre les deux.
Tu n'en veux pas faim.
Ouais. Donc, Mishra, un des endroits où il va se sauver, c'est qu'il va retourner dans la cave de Koilos et en fouillant, il va découvrir le Gate to Phyrexia. J'en ai déjà parlé. C'est la première contact de leur époque entre les habitants de Dominaria et les fameux Phyrexiens. C'est un portail qui mène vers la Phyrexie. Mishra va pas rentrer dedans, mais on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est sous-entendu.
En tout cas,
il y a eu des discussions.
Ouais.
On garde ça en tête. Urza est pas au courant. Urza, lui, il va s'en aller, en fait, c'est... il va aller dans le royaume de Yotia, qui est au sud de où ce qui était du désert. Yotia, c'est la cité de Krug. Ça, c'est le fameux là, artefact qu'on a essayé de pogner dans nos paquets de 4e édition, là, parce que ça sert tellement à rien. Là, l'amulette de Krug, qui est juste le tu tapes 2 pour prévenir un de dégâts. Lis-nous le flavor text.
Among the first allies Urza gained were the people of Krug. As a sign of friendship, Urza gave the healers of the city potents amulets afterwards. Thousands journeyed to Krug in hope of healing, greatly adding to the city's glory.
Ah, ben oui, c'est sûr. Ouais. Puis, fait que là, dans le fond, tu sais, Urza, il se pointe dans la ville de Krug. Il devient un horloger. Il fait, tu sais, vu qu'il est habile avec les artefacts, il répare des horloges. Au début,
ouais,
c'est
parce
juste
que
comme.
Là, lui, son plan de carrière, il est tout flushé. Là. Toute sa gang se sont tapés dessus. Puis, ils sont
morts.
Puis, OK.
Fait que là, il cherche un plan B, tu sais. Puis là, il s'installe à Krug. Puis, au début, c'est juste un commerçant sur la rue. Cependant, ce qu'il va remarquer, c'est que la fille du roi de Krug, Kayla Ben Krug, elle a dans sa dot, parce que le roi a dit « Je vais faire épouser ma fille à l'homme le plus fort du royaume de Yotia. » Fait que là, tu sais, ça, il l'explique dans le roman. Là, il y a plein de prétendants qui se pointent et tout. Tu sais, on voit le genre. Urza, au début, n'est pas intéressé. Le problème, c'est que. Pas le problème, mais c'est qu'il se rend compte que dans sa dot à elle, elle a un vieux livre des Tran, un vieux grimoire. C'est le Jalum Tome. C'est ça, c'est l'artefact en livre que tu payes 2 pour piger une carte. Puis après ça, tu discartes une carte. C'est le premier effet de loot là, dans Magic. Ouais. Lis-nous le flavor text, Tommy.
The time-worn relic was responsible for many of Urza's victories, though he never fully comprehended its mystical runes.
Ben fait que, Urza, il sait qu'il a besoin de ce livre-là s'il veut progresser dans ses pouvoirs. Fait qu'il se pointe à l'espèce de compétition d'homme fort. Le but, c'est de déplacer une grosse amulette de jade. Hein? C'est le Jade Statue qui est dans le set original. Puis, Urza, entre-temps, il s'était fait visiter par un jeune apprenti qui s'appelle Thanos. Excusez, j'ai mélangé mes étapes. Là, il rencontre Thanos avant de s'essayer pour la main du roi de Yotia. Fait que Thanos, c'est un fabricant de jouets. Il veut devenir un fabricant de jouets. Fait que c'est ce qu'il est capable de faire, c'est utiliser des automatons. Fait que le premier truc qu'il fait, c'est la clé statue, hein, la fameuse statue artefact 3-1 Regenerate. Thanos a gagné sa One Fame as Urza Greatest Assistant after he created these warriors Urza and did his apprenticeship, promoting him directly to the rank of Master. Fait que c'est avec avec une statue comme ça, un genre d'automaton robot, que Urza va réussir à bouger le fameux statue en jade qu'aucun homme fort était capable de faire bouger. Et le roi de Krug va être obligé de marier sa fille à Urza. Et ainsi, il pogne le fameux livre.
Et voilà, c'est logique, ça se suit.
Ouais, Thanos, c'est aussi lui qui a fait le fameux Candelabra of Thanos, hein, qui est très bon dans les decks combo, là, que tu payes X pour untaper X land. Thanos learned quickly from Urza that utter simplicity often led to wondrous yet subtle utility. Ça, c'est vraiment bon pour faire des grosses fireballs. Pendant ce temps, là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec Mishra. Hein?
Ben, un peu.
Tu suis bien à date, Jonathan? Hein?
Oh, ouais.
T'as tout déjà vu ces cartes-là, ouais.
Ouais, tout ça, c'est toutes des cartes qui m'ont fait perdre ou gagner au moins une fois.
Savais-tu qu'il y avait autant de bagages en arrière?
Pas à ce point-là, parce que j'apprenais à parler anglais à l'époque en jouant à Magic, en disant Spider-Man, fait que le lore, ça me fait plaisir de t'écouter parler, puis j'ai comme « Wow! » Il y a vraiment plus d'efforts que je pense en arrière de ça.
Ouais. Tout ça parce que Richard Garfield a dit que c'était impossible de compter une histoire avec des cartes.
Dans sa face, c'est sûr.
Fait que Mishra, pendant ce temps-là, dans le désert, il est devenu un protégé des Faladji. Les Faladji, c'est des tribus nomades du désert qui occupent, dans le fond, là, tout le centre de la carte de Terizar. Et ils vont se mettre à piller des villes à gauche et à droite. Là, Mishra va devenir comme un genre de warlord, de seigneur de guerre de eux, parce que notamment, il est capable de prendre les vieilles machines des Tran et de les mettre à leur usage. À un moment donné, il attaque la ville de Zegon, puis ça va être la première défaite d'Urza. Ils vont manger une volée, parce que les gens de Zegon ont un bâton qui s'appelle le Staff of Zegon, que tu peux payer, c'est vraiment mauvais, checker ça, tu payes 4, tu peux payer après ça payer 3 pour qu'une target créature perd -2/-0 until end of turn.
C'est drôle dit de même.
Ouais, fait que tu sais, c'est pas vraiment bon, mais on s'en fout. Le but, c'est de raconter une histoire. Lino, favorite text, Tommy.
Though Mishra was impressed by the staves Ashnod had created for Zegon's defense, he understood they only hinted at their full potential. Ah, ah, yeah. Aha.
On a déjà entendu ça, hein? Ashnod, ça nous dit quelque chose, hein?
Ah oui, Ashnod.
Fait que Ashnod, c'est l'artificière de la ville de Zegon. Elle avait bâti les bâtons de Zegon pour qu'ils puissent se défendre. Fait que là, Mishra va utiliser de diplomatie et va convaincre... j'oublie exactement, là, c'est dans le roman, il l'explique. Là. Mais dans le fond, il infiltre la ville de Zegon et convainc Ashnod de changer de bord, de joindre à lui parce qu'il dit « Hey, t'es vraiment bonne pour construire des patentes, là? »
Ah oui.
T'sais, pourquoi tu ne rejoins pas moi qui connais les secrets des trames?
Ah oui.
Fait que Ashnod va devenir l'apprenti de Mishra, comme Thanos est l'apprenti de Urza.
OK.
Un des trucs que Urza va utiliser pour parvenir à ses fins, c'est le fameux rack. Le rack, hein, pour un colorless, ton adversaire perd un de vie pour chaque carte en bas de 3 qu'il n'y a pas dans sa main. Fait que si tu en as 2 en jeu et il n'y a pas de carte dans la main, tu fais 6 par tour, ça descend très vite. Moi, j'adore cette carte-là. Inventé par Mishra dans ses premiers jours, le rack a été pendant longtemps sa création la plus crainte. Ça va être dans ces époques-là aussi là, qu'il développe le rack, qui est un peu le pendant, le revers de Black Vise qui était dans le set de base.
C'est vrai.
Ashnod, sous les enseignements de Mishra, va développer plein de machines que tu veux pas mettre dans ton deck, comme le Ashnod Battle Gear, 2 colorless. C'est la première armure de Magic. Hein. C'est un artefact que tu payes 2 pour donner une de tes créatures plus 2, moins 2. Tout simplement, là, d'abord que le titre, dans le fond, tu tapes ton Ashnod Battle Gear, puis ça donne plus 2, moins 2. Fait que ça fait mal à ta créature, mais elle est plus forte. Là, ça dit dans le favorite text, cette horrible invention illustre parfaitement pourquoi le lieutenant de Mishra était aussi crainte, autant par leurs adversaires que par leurs propres alliés.
Oh!
Puis, vu que Mishra faisait utiliser beaucoup la torture pour parvenir à ses fins, ben Ashnod, elle l'a suivi. Elle a créé le Ashnod Altar. 3 colorless pour un artefact que tu sacrifies une créature pour faire 2 mana colorless. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Tu peux faire des gros fireballs avec ça aussi. À jouer en Commander. C'est vraiment le fun. Fait que c'est bon, tu sais, on voit là, dans le fond, chacun de leurs bords, Thanos du bord d'Urza, Mishra du bord de Urza. Là, à un moment donné, c'est que Mishra va se rendre compte, il va entendre parler parce que là, tu sais, Urza est devenu le prince de Krug. Fait que ça fait jaser. Puis, dans le fond, Mishra découvre où est Urza. Parce qu'oubliez pas que le but de Mishra, c'est quoi?
C'est de réunir les deux roches.
Fait que dans le désert, Mishra va découvrir le Dragon Engine. C'est un 3 colorless, un 1-3 que tu peux payer 2 pour le pomper de 1. Dans le fond, il va utiliser la Weak Stone pour y enlever son 1 de power. Il va en prendre le contrôle. Puis ça dit « Those who believe the city of Krug will never fall to Mishra force, severely underestimated the might of his war machine. Ah. » Fait que... Mishra, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire comme une fausse attaque sur des alliés de Krug. Ça va forcer Urza et son armée à sortir de la ville. Puis de l'autre côté, il va arriver avec son Dragon Engine qui va complètement détruire la ville de Krug. Et ça, ça va vraiment faire chier. Il réussira pas à pogner Urza. Urza va battre en retraite dans son ancien royaume de Argive. Mais... qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être quoi la réponse de Urza selon toi, Tommy? Pourquoi tu penses que le Dragon Engine a réussi à passer à côté d'Urza, d'attaquer Krug, sans que Urza peut faire de quoi?
Quel bateau!
Selon toi, en termes de Magic, là, qu'est-ce qui se passait avec l'armée d'Urza à ce moment-là? Elle était...
il était tanné de sa... Ah, il était tapé.
Elle était tapée. Fait qu'en réponse, Urza va dire « plus jamais ». Il va créer avec les restants là, de l'armée de Yotia, il va créer les Yotian Soldiers.
Ah, cool.
C'est un 1-4 qui ne tape pas. Lis-nous le favorite text.
After Krug was destroyed while most of its defenders were at his side, Urza vowed that none of his allies would ever need to fear their own defense again, even while laying siege to a city far from their homes. Ah, ben oui, tu peux aller faire la guerre à l'étranger et être confiant qu'à la maison. Ouais, j'aime ça. Okay.
Fait que tu sais, c'est juste comme une gimmick là, de que ta créature va pas te taper, puis t'arrives avec ça. C'est très drôle, ils avaient aussi mis le Battering Ram, qui était un 1 qui permet de détruire les murs. Puis ça dit dans le flavor text, par le temps que Mishra avait été défait, aucun mage était assez fou pour utiliser des walls. Ça, c'est un beau clin d'œil à Magic. Il dit, mettez pas des walls dans vos decks si vous n'en avez pas besoin. J'aime beaucoup ça. Donc c'est ça, fait que là, t'as Mishra qui a découvert où est Urza. Urza se bat en retraite dans le royaume de Argive et va préparer ses défenses parce que, à cette heure que les deux se sont spotés, là, ça va être une lutte à finir. On est d'accord?
Ah ouais.
Puis, Mishra, il a l'avantage parce qu'il occupe le désert où sont les ruines des Tran. Fait que pour compenser, qu'est-ce que Urza va faire? Il va avoir besoin de ressources. Je propose, Tommy, que tu nous emmènes à la carte de la semaine.
Hey, ben, on va aller à la carte de la semaine. Checker c'est quoi les ressources? J'ai assez hâte. Merci, Jason. Merci aussi à Bone pour le beat qui s'en vient. On écoute ça. Merci à l'adversaire 43035. Catherine Est, c'est notre magasin affilié. On salue les amis qui sont là-bas. Fait que là-dessus, beat à Bone. Fait que c'est quoi?
Fait que Urza se dit au début, j'ai besoin de ressources. J'ai le Jalumtombe qui m'explique comment les Tran faisaient. Fait que dans le fond, je vais reconstruire leur civilisation. Fait que la première affaire qu'il fait, c'est que Urza, la première affaire qu'il fait, c'est qu'il fait creuser des mines à travers Argive. Ça, c'est les mines d'Urza que tu tapes pour un colorless.
Oui.
Donc, c'est la carte de la semaine. Je voulais en faire le Urzatron. Parce que c'est quand même un pan très solide de Magic. Fait que c'est ça. Il fait creuser les Urza Mines. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Mines became common as cities during the days of the artificers.
Fait que c'est ça. Fait que là, il se met à creuser vraiment, vraiment beaucoup de mines là, pour aller chercher tout ce qui est métal pour construire des armées d'artefacts et surtout bâtir des power plants, hein, les power plants d'Urza qui te permettent de taper un pour du colorless. Mais si tu as une mine et une tour, tu peux le taper pour faire deux mana de colorless. La construction d'artefacts nécessite d'immenses ressources. Ça, c'est le flavor text. Et la carte de la semaine, selon moi, c'est le petit clou là, qui tient tous ensemble. La tour d'Urza, hein, que si tu as la mine et le power plant et la tour, quand tu tapes ta tour, ça te permet de faire trois mana colorless. Quand tu as les trois ensemble, tu as assemblé le Urzatron, tu as 7 mana colorless. Ça te dit sur la tower, Urza always... lis-nous le flavor text, Tommy.
Oui, Urza always put to cases lessons on resource gathering to effective use. Ah oui, c'est ça.
C'est la leçon de Tokazia à Urza, c'est de bien utiliser tes ressources. Ça, c'était sorti dans Antiquities. Puis le problème des Urza, du Urzatron, ça a tout le temps été de l'assembler. Tu sais, c'était très random. Mmh. T'en mettais 4 de chaque dans ton deck. Puis souvent, tout ce que tu faisais, c'est que tu pigeais un land. Tu sais, si tu piges ton tower, puis ton power plan, ben, t'as 2 mana colorless, tu sais, puis t'as pas de couleur.
Oh, je n'avais pas, moi, dans ce temps-là, un deck avec le Dragon Engine qui devenait plus fort, puis j'avais plein de Urza.
Mais t'avais de la misère à l'assembler, right?
Oui, ben c'est
ça. C'est ça. Ça a tout le temps été le problème de ce land-là. Ils l'ont réimprimé dans la 5e édition, puis dans Chronicle. Ça n'a pas changé grand-chose et ça n'a pas vu beaucoup de trucs compétitifs. C'est seulement en 2004, ils nous l'ont ressorti dans la 8e édition. Quand ils ont créé dans le fond les Modern Frame, mm-hmm. Ils ont refait Urza, Mine, Urza Power Plant et Urza Tower avec des nouveaux flavor text, notamment l'Urza Mine, ça dit « In his hunger for power and knowledge, Urza dug deep in Dominaria Ancient Past. » Power Plant dit « Urza threw himself into his research, pushing the boundaries of both possibility and morality. » Puis le Urza Tower, « Urza studied the creation of the Tran, not simply to learn from them, but to surpass them. » Ce qui va donner le go aux Urza, parce que les Urzatron, je ne sais pas si tu joues moderne, Jonathan, mais c'est devenu probablement un des decks les plus communs dans Magic de réussir à assembler le Urzatron. Puis c'était grâce à des cartes comme qui n'existait pas avant Mirrodin. Sylvan Scrying, que tu cherchais dans un librairie pour une laine. puis tu pouvais la t'en mettais dans ta main, mais éventuellement ils vont faire des trucs semblables que tu mets en jeu.
Colorless, là, que la carte d'expédition que ça te coûte.
Ouais, j'arrive dans 5 secondes. Le Thirst Folk Knowledge, que tu pigeais 3 cartes, t'en discartais 2. Sauf si tu discartais un artefact, mais vu que tu joues plein d'artefacts parce que tu joues du Urzatron, ça allait ensemble. Fait que les premiers vrais decks compétitifs de Urza apparaissent en 2004. Et éventuellement, au début, c'est ça, t'assemblais là, avec tes 7 manas, tu sortais soit le Triskelion, qui avait aussi été réimprimé dans Mirrodin, ou le Tetravus, pour ceux qui jouaient plus vintage pis ça. Fait qu'avec ça, tu pouvais facilement, en théorie, au tour 3, tu avais ton Urzatron assemblé. Ce qui va donner vraiment le gros kick, c'est dans le temps de Zendikar en 2009, avec le Expedition Map, qui est un artefact que tu vas chercher un land, et surtout le Enshim Steering, que tu regardes, ça c'est les Eldrazi qui se font relâcher. Tu regardes les 5 premières cartes de ton librairie, tu montes une colorless, donc mettons le Urzolan que tu as besoin. Donc tu sais, ça permettait là d'avoir là, dans à peu près, je pense, 75% du temps, tu es capable d'avoir ton Urzatron assemblé au tour 3.
Yeah.
Fait que c'est d'habitude, on prend des affaires plus funky pour la carte de la semaine, mais des affaires qui ont eu un impact historique comme ça, je trouve important de leur mettre leurs petits petits ouvrages.
Ben, je pense que c'est très utile. C'est très thématique aussi. Puis c'est vrai que la Ultra Tower, c'est.
Ouais,
ça serait juste... plus bon s'ils donnaient 2 colorless chacun, parce qu'elle en donne 3. Là. Il y en a une qui en donne comme un trou.
Ouais.
Ben, l'affaire, c'est qu'une fois que t'es capable de l'assembler, t'es comme. Une mana. La différence entre 7 et 8 est plus élevée. Fait que rendu là, genre, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai juste une question pour Jason.
Oui.
Le dans Urzatron ou Tronland, Tron, il vient.
Ça vient?
Ouais.
OK, fait qu'il y a une télésérie dans les années 80, ça s'appelait Voltron.
Ah, OK. Ouais,
fait que Voltron, t'avais les. Il y avait 4 chats.
Ça, je le sais. Attends un peu.
Mais vas-y, Tommy, vas-y.
C'était des adolescents comme les autres là, qui devaient se battre pour sauver la galaxie. Puis eux autres, ben, il y avait chacun une espèce de panthère. Quelqu'un qui faisait, il se touchait pis tout, ben là, il y en avait une qui devenait la jambe, l'autre qui devenait l'autre jambe, l'autre qui devenait le corps, l'autre les deux bras.
Il assemblait Voltron.
Un tronc, c'est quand tu pognes plein de parties d'un robot pis tu l'assembles. Et d'où le Urzatron.
Voilà. C'est vraiment aussi niaiseux que ça.
Ça aurait pu être autre chose, mais finalement, c'est
mais écoute, c'est, tu vas, moi j'ai running gag, là. À chaque fois que tu vas dans un store jouer à Modern ou un tournoi, il va tout le temps, comme une fixture, là, il va tout le temps y avoir un joueur de Tron parce que c'est quand même accessible de façon budget. Là. Et c'est quand même facile à jouer. C'est un peu le pendant artefact du Burn Deck Mono Rouge.
Oh, ouais,
il y a tout le temps un joueur de Tron, je trouve. Là. C'est comme mon running gag. Là. C'est comme éventuellement là, une soirée de Magic de Modern, il y a un joueur de Tron.
Oh, c'est quoi la mécanique qui synchronise avec que tu peux payer avec des artefacts que tu as en jeu?
Le Affinity.
Ouais, c'est ça.
Qui était sorti avec Mirrodin, ouais. Ça abusait de ça notamment aussi. Quand je dis que ça allait décoller en 2004, là, c'est à cause de ça.
Et voilà.
Puis nous envoyer au beat.
Ah oui, Mirrodin, c'est plein d'affaires color. Laisse d'ailleurs, on va terminer ce bloc de la carte de la semaine. Merci Jason. On retourne au Beatabound. Le même Nark, c'était une de mes cartes préférées, moi, à l'époque.
Ouais, le 7 colorless pour un 4-5, tu peux voler les permanents de l'autre si c'est des artefacts.
Oui. Puis tu peux les transformer en artefacts aussi.
Ouais, ça c'était dans les premiers decks Tron compétitifs. Surtout que tu avais ton Tron au troisième tour, tu mettais même Nark. Puis à partir du quatrième tour, tu commençais à y voler ses affaires.
Hey, hein.
Fun time. Ou l'autre c'était où il jouait ça avec le Mindslaver, que ça permettait. Tu le sacrifiais pour. Ça coûtait 6, là. Tu le sacrifiais pour prendre le contrôle du joueur à son prochain tour. Super le fun. À ce temps, les decks de Tron, c'est avec Karn Liberated puis Worm Coil Engine. Oui. Je vais pas trop en parler maintenant parce qu'ils fit dans l'histoire que je vais raconter plus loin cet été. Donc,
oui. Bon, il revient.
Tune. On va revenir à la guerre des deux frères. Hein? Fait que là, tu sais, les Urza et Mishra se font une guerre totale avec leurs artefacts respectifs. Il y a une gang dans le sud-ouest de du continent, c'est le fameux Ivory Tower, hein, les sages dans la tour d'ivoire, déconnectés du monde, mais le contemplent et l'analysent.
Ouais.
Ils voient ça aller, cette guerre-là, notamment le fait qu'il y a pas mal de mines qui se creusent, puis que c'est des genres de guerre totale là, pour voler la pierre à l'autre. Puis c'est des au début, c'était juste des petites escarmouches, là, mais là, c'est vraiment des royaumes qui foncent dans un autre royaume. Puis Mishra et Urza sont vraiment dans une guerre à finir. Fait que les sages de l'Atnam, ça c'est la couleur bleue dans Antiquity, se disent faut qu'on met un stop à ça. L'Ivory Tower, on s'en rappelle, ça donne un point de vie pour chaque carte de plus que 4 que tu donnes dans ta main. Valuing scholarship above all else, the inhabitant of the Ivory Tower reward those who sacrifice power for knowledge. Puis la sage de l'Atnam, c'est un 1-2 que tu sacrifies des artefacts pour piger une carte. Ils ont un petit problème avec ce qui se passe, fait qu'ils décident d'intervenir. Ils vont devenir un peu comme une genre de force d'intervention là, de magicien bleu, beaucoup axé sur péter les artefacts. C'est pour ça qu'ils ont notamment le Energy Flux. Ça, si vous jouez à Commander, là, c'est un must. C'est pour 3 mana. Tous les artefacts en jeu coûtent maintenant 2 à l'upkeep. Puis la plus fameuse de toutes les sages de l'Atnam, c'est Urkill, la carte Urkill Recall, où ce que tu ramènes tous les artefacts d'un joueur dans sa main. Ça clean une table. Donc ça, c'est Urkill, c'est comme une des leaders là, des sages de l'Atnam. On voit aussi sur la carte Reconstruction que tu ramènes un artefact du graveyard. Tedious research made the sage of the College of l'Atnam adept in repairing broken artifacts. Puis je l'ai pas mis dans mon document là, mais Felden, tu sais, dans la canne de Felden, ouais, que tu vas chercher les cartes dans ton graveyard, est aussi un sage de l'Atnam. Donc cette gang-là vont chercher une façon là, de contrer Urza et Mishra. Donc on les garde en tête. Néanmoins, pendant ce temps, dans le camp de Mishra. Mishra va faire, notamment à cause de ses influenceurs, là, je n'ai parlé un peu, mais je ne veux pas trop les dévoiler pour l'instant. Mais ils vont se mettre à inventer des nouvelles affaires de plus en plus démentes. Mishra, c'est vraiment le evil entre les deux, là, on s'entend. Là. Fait que Ashnod, hein, notamment Ashnod, va se mettre à faire des expérimentations comme le Transmogrant, qui pour un colorless, une créature non artefact gagne un counter +1/+1 et devient un artefact. Ça c'est Ashnod Found. Lis-nous le flavor text, je trouve ça très drôle. Dans le fond, ça transforme des êtres de chair en machines.
Ashnod Found few willing to trade their humanity for the power she offered them. Bah, ouais.
Fait que là, ils vont forcer du monde à se faire transformer en machines. Ça va leur faire des genres d'armées de robots. Puis le Millstone, le fameux Millstone, d'où vient le terme de miller un deck. Hein? More than one mage was driven insane by the sound of the Millstone relentlessly grinding away. Ça vient de Scaf Elias, là, dans son groupe de playtester. Il y avait à l'époque que il y avait pas de limite de 4 cartes là, en 93. Fait qu'il y avait un joueur que tout ce que son deck, tout ce que c'était des Time Twister puis des Swords to Plowshare. Puis c'était le premier deck de 1000. Fait que là, Scaf Elias, il a été beaucoup impressionné par ça. Fait qu'il a fait dans Antiquities un hommage à ça. C'est un artefact que tout ce que ça fait, c'est que ça vide la librairie de 2 cartes à chaque. Tant que t'es capable de payer, là.
C'était fort, ça, dans les débuts de Magic. Les bleus-blancs contrôlent Millstone, c'était dans les plus forts.
Non, oui. Il y a un deck de. La semaine passée, le gros tournoi d'Old School qu'on a fait à Montréal à l'adversaire, Millstone, le deck de Millstone a fini 3e. Donc, ça se tient, là. En arrière d'eux, bien sûr, comme je l'ai mentionné, hein, se trouvent les forces des Phyrexiens. Tranquillement, pas vite, là, Mishra leur a gardé la porte ouverte, comme on dit.
Tu l'as dit, hein, c'est ça, tu l'as dit, là, tu disais que tu voulais pas en parler beaucoup, mais ouais. Là, Jason en est rendu, là.
On est rendu, là. Fait que c'est les prêtres de Yagmoth. Fait que, tu sais, plusieurs de ceux qui se font transformer en transmogrants, là. Deviennent les Priests of Yagmoth. C'est des clérics. Là, on voit, ils transforment leur peau par des machines. Ils veulent se rapprocher de la. C'est ça, la Phyrexia, c'est que tu te rapproches de la perfection des machines. Tu sacrifies un artefact, puis ça te donne en mana noir le casting cost de l'artefact. Ça, c'est bon pour fueler des gros Drain Life. Et éventuellement, c'est le Lord of the Pit du set, là, le démon de Yagmoth. 4 colorless, 2 noirs, un 6-6 Flying First Strike. Sauf que faut que tu donnes un artefact à manger à chaque keep. Sinon, il se tape puis il te fait 2 de dégâts.
Ce qui est cool, pareil.
Ah, il est vraiment cool. Fait que ça, c'est les premières là, apparitions de la Phyrexie là, dans le lore de Magic. Ça va être comme l'espèce de force dans l'ombre derrière Mishra qui parle dans son oreille. Là. puis qui dit faut vraiment que tu joignes les deux artefacts ensemble, parce que Mishra et Urza ne le savent pas, mais une fois que la Weak Stone et la Mix Stone sont réunies, c'est ça qui permet en fait de contrôler le fameux portail, tous les anciens portails de l'Empire des Trames. À travers, dans le fond, le but de Yagmoth, c'est de revenir sur Dominaria.
Ok!
Wow!
Hein?
Okay. C'est bon, juste être sûr, j'ai bien compris. Fait qu'au centre, t'as un conseil de sorciers, t'as une armée de robots méchants qui s'en vient bientôt.
Là, la guerre est en cours, là. C'est
la guerre est en cours, OK. Fait que les robots sont là, t'as le Jedi Council, puis t'as une menace fantôme qui dit des murmures dans l'oreille.
Il y a quatre factions, t'as tout bien compris.
All right.
Sur le continent de Terizyar, cette guerre-là, ça va durer plusieurs années. Là. En fait, c'est Urza et Mishra deviennent pas mal vieux. Là. T'sais, ils étaient adolescents au début de l'histoire, puis vers la fin, ils commencent à avoir la barbe blanche. Tout le sol va être ravagé, ça va devenir des strip mines. Fait que ça représente les mines qui creusent pour aller chercher les ressources pour construire des armées de robots.
Bon ouais.
Le strip mine, c'était la carte de la semaine passée. Je vais pas revenir dessus. Vous irez voir l'épisode de la semaine passée, mais dans le fond, Mana Colorless, tu sacrifies pour péter un LAN. Allez voir notre épisode de la semaine passée, j'ai fait un 10 minutes sur strip mine. Mais ça représente, dans le fond, l'aboutissement de ce conflit-là. La conséquence, c'est qu'il y a de moins en moins de place où tu peux vivre, il y a de moins en moins de LAN. Et ça commence à être de plus en plus ravagé. Fait que là, les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des ornithoptères pour explorer au-delà du continent de Terizyar. C'est le fils d'Urza qui, le premier, va trouver le continent de Argot. Ça, c'est les cartes vertes dans Antiquities. C'est une grosse forêt ancienne et vierge. Fait que comme tout bon industrialiste, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire, vous pensez?
Des McDonald's puis des stationnements.
Et voilà. Fait que la guerre entre les deux frères va se transporter sur le continent de Argot, sur l'île d'Argot. Là, on entre, dans le fond, c'est une cinquième faction. C'est les habitants d'Argot. C'est surtout des elfes et des pixies. Et la déesse Titiana, qui est une genre d'élémental. En fait, c'est la même affaire que Multani. Là. C'est une maro. Un esprit de la forêt, là. Fait que là, tu sais, la Titiania Song qui changeait tous les artefacts en créatures, mais qui peuvent plus utiliser leur pouvoir d'artefact. Et surtout les Argossian Pixies, hein, un 2-1 qui peut pas être bloqué par des artefacts créatures et que les dégâts des artefacts sont réduits à zéro quand tu vises le Argossian Pixies. Fait que ça représente, c'est les forces de la nature contre Mishra et Urza. Lis-nous le flavor text de Argossian Pixie, Tommy.
After the rape of Argot Forest during the rule of the Artificers, the Pixies of Argot bent their magic to more practical ends. Ben oui.
C'est quelque chose. Puis là, tu sais, un peu comme les artificiers ont des machines de plus en plus grosses, les créatures de la forêt vont aussi être de plus en plus powerful. Il va y avoir notamment le Gaia's Avenger. Son Power Toughness, c'est le nombre d'artefacts en jeu. Fait que tu sais, plus il y a des artefacts, plus il est fâché. C'est le dessin est vraiment mal fait. C'est comme son chest qui penche entre ses deux jambes pour dire qu'il y a une queue.
Ouais, c'est en tout cas.
C'est vraiment bizarre. After the destruction of Argot, Gaia was willing to instill a portion of her own power into some of her more vengeful followers. Fait que ou Crumble, là, qui détruit un artefact, tu gagnes sa vie, son casting cost en vie. Les spirits, les esprits de l'Argot te donnent une nouvelle vie à ceux qui. Repent la folie de devenir des esclaves des machines. Fait que t'as cette espèce de guerre entre la nature puis qui est juste comme pognée entre Urza et Mishra qui se font la guerre pour les ressources de Argot.
Allez donc, vous chicanez chez vous, là.
Fait que c'est pour ça que la fameuse carte Mishra Factory, que je pense qui est connue de tout le monde, ça c'est le land colorless que tu peux transformer en Assembly Worker 2-2 until enough turn. C'est, dans le fond, c'est Urza qui a taillé une usine dans un arbre de la forêt d'Argot. Fait que les laines de Mishra dans les stories de Antiquities, le Mishra Workshop aussi, hein, que tu peux taper pour faire 3 mana colorless, c'est aussi un arbre taillé. Fait que ça représente, dans le fond, là, c'est la transformation de la forêt d'Argot en prolongement de cette guerre-là. Quand que Urza Saga est sorti en... Là, je vais faire un gros saut, là. Mais l'histoire le nécessite. En 1998, ils ont décidé de faire comme un remake. parce qu'il voulait, il y avait l'invasion phyrexiane qui s'en venait, là, qu'on avait vu dans Tempest. Fait que les créateurs de Magic the Gathering, là, ils se sont dit, on va faire comme un genre de clin d'œil au passé. Fait que Urza Saga raconte l'histoire d'Urza dans le passé. Et toutes les cartes vertes dans Urza Saga font référence à la guerre entre Urza et Mishra sur l'île d'Argoth.
OK.
Fait que c'est comme un ajout, en fait, aux 7 Antiquities, un genre de add-on.
OK.
T'as la carte Crosswind, où ce qu'on voit une Ornithopter pognée d'une tempête. Ça dit « Harbin Ornithopter had been trapped for 2 days in a storm. When the sky cleared, all he could see was horizon of trees. Harbin, c'est le fils de Urza et de Bayla bin Krug, la princesse de Krug. » Fait que c'est lui qui est à bord d'un ornithopter qui va découvrir l'Argoth. Et ensuite, la carte à 100$, exploration, qui te permet de jouer deux laines par tour pour un verre, c'est vraiment fort. Où est-ce qu'on voit un genre de bateau steampunk de Urza qui vient domper du stock pour commencer à coloniser l'île. C'est-à-dire les premiers explorateurs qui ont trouvé Argoth, considéraient que c'était une gigantesque entrepôt là, de ressources naturelles.
Ah oui.
Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme j'ai dit, là, c'est la continuation de l'histoire d'Antiquities et la défense, là, les créatures de là, c'est de là que vient le Gaea's Cradle. Hein, j'ai dit Gaea, c'est la déesse là, de cette île-là. C'est le Legendary Land qui donne un mana vert pour chaque créature que tu contrôles. Et les prêtresses de Titiana que tu tapes pour faire un mana vert pour chaque elfe en jeu.
Noël.
Je l'ai juste mis pour toi, Tommy.
Fear Tad Magic Ever. Mange la marge. J'avais arrêté dans ce temps-là à cause de cette carte-là.
Titiana là, Reward.
Titiana qui en tape les elfes. Là, l'autre qui prend dans ta face.
Là, tu peux l'en taper deux fois et faire beaucoup de mana. Avec le Gaea's Cradle, ça va tout ensemble, ça. C'est la force d'Argoth. C'est pour ça que Tommy, il est vraiment content que, tu sais, Mobile Fort, hein, on voit le fort mobile de Mishra, là, qui est un 0-6 wall, mais tu peux payer 3 pour le changer en 3-5 until enough turn qui attaque. On voit un genre de fort mobile là, qui avance dans une forêt qui ont coupé. Ou le Gaea's Bounty, où ce qu'on voit une scène d'une coupe à blanc de la forêt. Tu cherches dans ta librairie pour 2 forêts, tu la mets dans ta main, tu la shuffle. Fait que là, tu sais, c'est les cartes de Urza Saga représentent là, la guerre entre les deux frères. Il y a 2 cartes que je vous porte attention. La carte Retaliation dans Urza Saga, 2 colorless, un vert, un enchantement. Que chaque fois qu'une créature que tu contrôles, chaque créature que tu contrôles qui bloque a +1/+1 until end of turn. On s'en fout des pouvoirs de la carte, mais c'est ce qu'elle véhicule comme histoire.
Ah, ben ouais.
On voit l'image chez Pikachu, je parlais, ils ont la barbe grise maintenant. Non? C'est dans les ruines de la forêt. Là, on voit que toute la forêt est dévastée derrière. On voit Urza et Mishra. Urza est à droite, Mishra est à gauche. Qui finalement, là, tu sais, après toute cette guerre, là, ils ont comme. À la fin, ils s'affrontent pour le combat final. Et c'est là que pendant le combat, Urza prend le dessus et réussit à torcher Mishra. Et c'est la carte Endoskeleton. Il se rend compte que. Mishra, en fait, n'est plus humain. Là, on voit la carte, là, il est tout comme décomposé, puis on voit les machines à l'intérieur.
Bien, Jason, c'est là, faut t'avoir le médecin, arrête avec tes chamans vibratoires. Il est en train de fumer de la sauge, tu vois, c'est dégueulasse.
Lui-même est en train de se transformer en phyrexien, il est en train de devenir une machine. Puis c'est probablement pour ça aussi là, qu'il était aussi obstiné à faire cette guerre-là. Et se rendant compte qu'il ne sera pas capable de le stopper, c'est là que il va devoir Urza, il va devoir battre en retraite et utiliser dans le fond la solution ultime, c'est que au cours de ses recherches, il avait trouvé, en fait, c'est Ashna qui avait trouvé l'apprenti de Mishra. Elle, dans ses recherches, elle avait trouvé le Golgothian Silex, qui est aussi le logo de Terrain Basique. 4 colorless, tu payes 1, tu détruis toutes les cartes de Antiquities. Quand Ashnod se rend compte que dans le fond Mishra est devenu comme un genre de phyrexien, elle va donner le Golgothian Silex à Urza, puis là Urza va dire, elle va y expliquer là, qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'elle le donne à Thanos, puis Thanos le donne à Urza. Et Urza va il se rend compte dans le fond que toute l'armée de Mishra est comme corrompue par les phyrexiens, fait qu'il va faire le Urza Renus Blast. Dans le fond, le Golgothian Silex avait été refait dans Dominaria, hein, exile all non-land permanent that Aran legendary. Fait que Urza va faire exploser le Silex, ça va faire une gigantesque détonation, style passé une détonation nucléaire. qui va détruire en fait là, toute l'armée de Mishra et va mettre un gros nuage de poussière autour de Dominaria. C'est là que va commencer le Dark Age, hein, le set de Dark, qui a été fait par... le storyline a aussi été fait par les mêmes playtesters.
Okay.
Et bien sûr, qu'est-ce qui devient après l'explosion nucléaire? C'est le Ice Age. C'est le set qui vient après ça. L'année d'après, là, ça va être le Ice Age, où ce que Dominaria est pendant des siècles sous une ère glaciaire. Et ça, c'est le mauvais côté. Mais le bon côté, c'est que l'invasion phyrexienne a été stoppée. L'explosion a fait en sorte que le Weak Stone et le Meek Stone ont disparu. Et merci, bonsoir. La menace des Phyrexiens ne plane plus sur Dominaria.
Ils ne savaient pas encore que c'était les Phyrexiens non plus dans ce temps-là. Là. C'était juste son frère qui avait pété les plombs. Là.
Ben non, mais il s'est rendu compte parce qu'il affrontait un peu ça.
Oh ouais, ben il a affronté.
C'est comme j'ai dit, c'est Ashna qui a expliqué à Thanos qu'est-ce qui se passait avec Mishra. Là.
Okay.
Il y a eu plusieurs cartes hommages après ça. Comme Mishra était faite en carte dans Time Spiral. Je sais que tu l'utilises dans ton deck de Manche-Cul, je pense, Tommy.
Il est à la base de mon deck de Manche-Cul, ouais.
Ouais, c'est un 4-4 pour un mana colorless, Grix 6, bleu, noir, rouge. Chaque fois que tu joues un artefact, tu peux chercher ton graveyard, une main ou une librairie pour une carte qui a le même nom que sur le spell que tu viens de jouer. Est-ce que tu le mets dans ta main ou en jeu? Pas des into play, tu mets en jeu.
Ouais.
Fait que c'est quoi que tu vas chercher comme genre des Ankh of Mishra?
Ouais, en fait, l'espèce de grosse twist au centre de ce deck-là, c'est l'enchantement noir qui coûte 3 colorless, 2 noirs, que toutes les fois qu'il y a un de mes adversaires qui met qu'un joueur met un land en jeu, ou un adversaire met un land en jeu, il perd 2 puis je gagne 2. Puis j'ai les Cauldron of Storm là, qui font que...
Storm Cauldron, oui.
Storm Cauldron, quand tu tapes un land, tu le remets dans ta main. Fait que souvent l'autre, il se ramasse avec tout ça dans ta main. Puis autour, ben, j'ai beaucoup d'affaires d'artefacts pour me protéger. Là, j'ai deux, j'oublie c'est quoi le nom, là, deux gros colosses. Là, c'est pas ceux qui sont, je pense qu'ils sont Dark Steel, indestructibles, mais c'est pas celui qui est
infect. C'est fait des bloqueurs. Là.
Ouais, des gros cossins. Je suis pas mal fier de celui-là. Là, peut-être que je pourrais vous faire la playlist à un moment donné. Là.
Puis Urza, Lord High Artificer, ça c'est quand ils ont fait Urza en carte. Deux colorless, deux bleus pour un 1-4. Ça a déjà été une carte de la semaine, je pense. C'est quelqu'un qui rentre sur Battlefield. Tu crées un Construct 0-0 que c'est plus 1 pour chaque artefact que tu contrôles. Ça, en fait, ça va devenir Karn. La première habilité de Karn va être... tu sais, la Planeswalker Karn, il fait des tokens qui sont exactement comme ça.
Ouais.
Tu tapes un artefact comme tapé pour faire mana bleu. Ça, c'est le Tarlorian Academy. On va en parler pendant l'été quand on sera rendu là. Et tu peux shuffler ton librairie pour exiler le top card et Until End of Turn, tu peux la jouer sans payer son mana cost. Ça, c'est aussi un truc qu'on va parler plus loin cet été. Mais tu sais, dans le fond, mon point, c'est qu'ils ont fait des cartes hommage aux deux. Il va y avoir la saga des Antiquities War qui est carrément là. En fait, ça fait la même chose que Titania Song. C'est une carte pour présenter là, la guerre entre les deux frères. Traxxas, Scourge of Krug, qui est un Dragon Engine 7-7 légendaire. C'est la version boostée du Dragon Engine qui détruit la ville de Krug. Fait que là, Trample 7-7, il rentre en jeu tapé. Tu peux juste l'entaper si tu casses un Historic Spell, dans le fond, mettant un artefact. C'est plus fort que le Dragon Engine, là, mais dans le fond, ils ont dit ça, c'est la machine avec laquelle Mishra a détruit la ville de Krug. Tu peux maintenant le summoner. C'est quand même pas pire, là. Tu sais, c'est des beaux clins d'œil.
Ah oui.
Titiana, protecteur de l'Argoth, c'est la chef là, des elfes d'Argoth. Là, j'avais dit tantôt, c'est une élément d'esprit de la forêt. 5-3. Elle rentre sur le battlefield, tu retournes un land card de ton graveyard sur le battlefield. Puis chaque fois que tu as un land que tu contrôles qui va dans le graveyard, tu crées un élément. Dans le fond, tu sais, chaque fois qu'une partie de la forêt se fait envoyer au graveyard, tu crées un élémental fâché, 5-3 token.
Comme ça, moi, ça.
Oui, ça c'est bon, Commander. Fait que, tu sais, il y a plusieurs cartes. Urza Saga, ça c'est ce qu'on va faire tout l'été là, dans mes épisodes de lore. Ça c'est un Land Saga, c'est très joué présentement en Legacy puis Modern. Ça représente, là, c'est Urza qui, tu vois, il fait encore un artefact construct, +1/+1 étant le nombre d'artefacts que tu contrôles.
Ouais.
On voit le genre. Fait que c'est pas mal ça. Ça c'est la fin de mon histoire pour ce soir. Fait que, tu sais, comme ça met fin à mon histoire parce que dans le fond, Mishra et Urza sont morts.
Ben non.
Est-ce qu'ils sont morts?
Ben pas Urza. Michra, en tout cas, ça a eu l'air de bardasser, là. Il a pété le Golgotian Tilek. Ah, mais c'est vrai, Urza, il était dans le milieu de l'explosion.
Ouais, mais de quelle façon, Tommy, tu peux survivre à une explosion nucléaire dans le monde de Magic? Après que tu t'es rendu compte que ton frère était corrompu par les Phyrexiens, là, puis ça te fait un gros choc émotionnel.
Ouais, mais légendaire, Urza, puis ça fait toutes les affaires légendaires, fait qu'il n'a pas été affecté par son spell.
Non, mais c'était une affaire de poigner son spark là, parce qu'il a vu les intestins de son frère là, dans l'exosquelette. Tu
vois, c'est que c'est dans le fond le choc de ce qui s'est passé, qui a été tous les deux manipulés par les Phyrexiens, dans le fond, pour se faire une guerre.
Bon.
Pour réunir les deux pierres. C'est que Urza, ça va sparker son spark. C'est que, j'en dis pas plus, mais la prochaine fois qu'on fait un épisode de lore, on va parler des premiers voyages de Urza, qui sont les autres couleurs dans le set de Urza Saga. Vous allez voir, ça va, il va se passer bien des affaires. Bien des affaires.
Ben, j'aime beaucoup ça. On a un été de lore qui s'en vient avec notre sphinx Jason. Merci beaucoup, Jason. Merci, Jonathan, d'être passé aussi.
On merci joue, l'invitation.
D'ailleurs, j'en profite pour lancer comme ça, mais vendredi qui s'en vient au musée, on va jouer à Magic. Vous êtes les bienvenus, tout le monde. Je vais sûrement essayer mon deck de Cycle encore. Peut-être mon nouveau deck de chevalier. Je l'ai fait aussi, le deck de chevalier chanceux noir, là, parce que je...
C'est fun. Chevalier chanceux. Allez voir ça sur notre Facebook. Là, tapez chevalier chanceux terrain basique. Premier lien sur Google.
Ça faisait longtemps que je voulais faire un équivalent comme ça, puis ça se casse. J'aime ça avec les petites... En tout cas, j'aimais beaucoup ça. Bon, ben... Merci aussi à Nounours qui n'a pas été trop mal commode. Merci à Martin Godette de Ménage du Dimanche et de podcast.com qui s'occupe du montage. Merci à Bone pour le beat et à l'adversaire pour nous appuyer malgré toutes ces difficiles épreuves de l'existence. Et je pense que je suis rendu à dire merci Jonathan.
Ah, tu l'as dit, mais je le prends comme un compliment.
Et j'ai dit merci Jason aussi. Donc, on vous laisse là-dessus. Et mon nom est Tommy Godette. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascou possible.
Membre de la famille H2O Web Media.